Mes chers confrères, je vais en venir à notre orateur de ce jour, Sir Howard, Monsieur Howard Davis, qui présente, s'agissant d'une méditation sur la bonne gouvernance, une capacité extraordinaire parce qu'il a multiplié les expériences, les formations et les angles de vision. Et comme je le disais il y a un instant, de méditation sur la bonne gouvernance. C'est un universitaire. Il est fellow du collège Merton d'Oxford. Il a été directeur de la London Economic School et il est professeur en ce moment même à Sciences Po, professeur en français, tout en ayant, enfin pas professeur d'économie, disons, mais il parle un français admirable. C'est évidemment l'un des critères qui a été retenu pour lui demander de nous faire l'honneur et le plaisir de venir ici. Il a une formidable expérience aussi du secteur privé. Il a été directeur général du patronat britannique, le Confederation of British Industry, et il est actuellement, au moment où nous parlons, président de l'une des quatre très grandes banques britanniques. Peut-être trouve-t-il que quand j'en énonce quatre, j'ai tort, je devrais dire l'une des deux plus grandes banques commerciales britanniques, la NatWest. Et enfin, il a une expérience du secteur public qui est également absolument remarquable, puisqu'il a été sous-gouverneur, vice-gouverneur de la Banque d'Angleterre et chairman de la Financial Service Authority, qu'il a d'ailleurs créé en son temps, et c'était une réforme structurelle de toute première importance. Voilà, mes chers confrères, l'homme que vous avez devant vous et qui va donc nous dire comment il commente la bonne gouvernance avec le bénéfice, en quelque sorte, de cette extraordinaire expérience et information. Howard, Sir Howard, vous avez la parole.
Monsieur le chancelier, monsieur le président, monsieur le secrétaire perpétuel, mesdames, messieurs, c'est un grand honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui dans un des lieux saints de la culture française. Je suis arrivé pour travailler en France pour la première fois en septembre 71. J'étais l'assistant d'anglais au lycée Thiers à Marseille, le lycée de Marcel Pagnol. Enfin, je n'étais pas l'assistant d'anglais, j'étais l'assistant d'anglais à l'époque. Mais je n'aurais pas pu imaginer que 50 ans plus tard, je serais devant vous à l'Institut de France. Parce que pour les Marseillais, Paris est un pays lointain dont on ne connaît pas grand-chose. Je dois cet honneur, évidemment, à votre président Jean-Claude Trichet. Nous nous connaissons depuis presque 30 ans. Mais je dois dire que nos relations ont commencé avec un malentendu grave. En 1995, j'étais nommé sous-gouverneur de la Banque d'Angleterre. Jean-Claude était alors le gouverneur, rue Croix des Petits Champs, et il m'a très rapidement invité à Paris en visite fraternelle. La franc-maçonnerie des banques centrales reste très puissante. Et à l'époque, il était envisagé que les Britanniques feraient partie de l'eurosystème un jour, donc on avait intérêt à se connaître du mieux possible. J'ai passé la matinée avec les économistes et les contrôleurs de banque, et Jean-Claude m'a invité à déjeuner en tête-à-tête dans un des salons dorés de l'hôtel de Toulouse. C'était un vendredi, et il m'a proposé un verre de Bordeaux. Il aurait été impoli de refuser, d'autant plus que j'ai remarqué qu'il était question d'un château Talbot 83. Une très bonne année, et nous avons trinqué à l'amitié éternelle entre la France et la Grande-Bretagne. Et je suis rentré à Londres très content. Mais malheureusement, l'histoire a pris une tournure grave après, parce que deux semaines après, j'étais l'hôte d'un dîner d'industriels à la Banque d'Angleterre. Ayant beaucoup apprécié le château Talbot de la Banque de France, j'ai fait venir le sommelier et je lui ai demandé si nous en avions et s'il était possible de le servir au dîner. Ses réponses furent catégoriques, oui et non. On avait en effet plusieurs caisses du Talbot 83, mais il était hors question de le servir. Le vin n'était pas dans la cave, ni même à Londres. Il était à l'entrepôt à Bordeaux. Si j'avais envie de servir un Saint-Julien très très jeune, il proposait un Gruau-Larose 78 qui venait d'arriver. Il est souvent dit que nous, les Anglais, avons tendance à boire notre Bordeaux trop tard pour pouvoir dire qu'il avait un meilleur goût dans le passé. Alors, lorsque j'ai revu Jean-Claude des réunions de banquiers, j'ai raconté cet échange, un exemple des malentendus qui ont marqué les rapports franco-britanniques à travers le temps. J'ai insisté que pour moi, le Talbot 83 à l'époque était absolument extraordinaire. Il a fait semblant de trouver ça amusant. Mais un mois plus tard, on assistait à une réunion de banquiers à Bâle, et c'était un moment où les Américains et les Européens n'étaient pas d'accord. Alan Greenspan croyait que les taux d'intérêt en Europe étaient trop élevés. Il insistait là-dessus pendant le dîner. Arrivé au fromage, et Jean-Claude ne pouvait plus. « J'en ai eu assez », a-t-il crié. « Ça suffit. J'ai les Américains qui critiquent ma politique monétaire. Et le comble, c'est les Anglais disent que mon vin est imbuvable. » Il me reste, Jean-Claude, quelques bouteilles de Bordeaux de 83 dans mon cave chez moi. Et j'espère que j'aurai l'occasion d'en offrir une à vous, à toi, un de ces jours. Mais il ne m'a pas invité pour parler de nos goûts respectifs en matière de vin, ni même pour traiter la gouvernance des banques centrales. J'en parle dans un de mes cours que j'ai donné à Sciences Po. C'est un sujet un peu obscur et qui n'intéresse pas tout le monde, bien qu'il existe des différences entre Paris et Londres qui ne sont pas sans intérêt. Comme il l'a dit, j'ai travaillé dans le secteur privé depuis maintenant presque 20 ans, et c'est le gouvernement des entreprises qui m'intéresse le plus maintenant. Le sous-titre que j'ai choisi est « La gouvernance des affaires et l'affaire de la gouvernance ». Qu'est-ce que cela signifie ? Bon, ma thèse principale est la suivante. La grande crise financière de 2008-2009 a démontré que la gouvernance des banques manquait de rigueur et d'indépendance. En fait, plusieurs scandales avant la crise auraient dû nous avertir que tout n'était pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. On pense à Barings, au Crédit Lyonnais, à Enron, etc. Mais l'ampleur de la crise globale et les coûts énormes imposés aux gouvernements et contribuables démontraient qu'on ne pouvait pas continuer comme avant. Même Alan Greenspan, le pape du laisser-faire, était convaincu qu'il y avait un problème grave. Au Congrès américain, il a désavoué sa doctrine de non-intervention. Il a dit... Ceux d'entre nous qui ont compté sur l'intérêt personnel des banquiers pour protéger les capitaux des actionnaires sont dans un état de sidération incrédule. Depuis la grande crise, la gouvernance des banques et des autres institutions financières a été réformée sous des formes différentes dans différents pays. Mais les résultats ont été décevants et même contre-productifs dans certains cas. Pourquoi ? En grande partie parce que les règles et les codes sont dans les mains des investisseurs, ou pire, des agences qui se sont établies en conseillers de vote et qui ont réduit l'évaluation de la gouvernance des entreprises à un exercice de cases à cocher. La gouvernance est devenue une affaire en elle-même, loin de la réalité de la direction d'une grande entreprise. Mon but est de libérer la gouvernance des moins de ces soi-disant experts. Mais avant de m'embarquer sur cette croisade chimérique, je vais reculer pour mieux sauter, comme on a l'habitude de dire en anglais. Le mot « gouvernance » dans le sens d'une méthode de gestion ou un système de régulation a été utilisé depuis 1660 en anglais, d'après le dictionnaire d'Oxford, mais le mot n'était pas d'usage courant jusqu'à tout récemment. Je rappelle le choc provoqué par la publication des mémoires du Premier ministre Harold Wilson en 1976, intitulée « La gouvernance de la Grande-Bretagne ». Le mot était rare à l'époque, et il semblait que Wilson adoptait un usage archaïque pour une raison obscure. Mais à cet égard, Harold Wilson était un homme en avance sur son temps. D'après l'analyse de Google Engram, qui catalogue l'usage des mots dans les livres publiés au cours des deux derniers siècles, Le mot anglais « governance » n'était guère utilisé avant 1960, mais le nombre de citations a augmenté de 800% en 60 ans. En français, le mot « gouvernance » était beaucoup utilisé entre 1810 et 1820, mais est tombé en désuétude et n'a ressuscité qu'en 1980, 20 ans après la Renaissance anglaise. Je laisse le soin aux membres de l'Académie française d'expliquer le faux départ de la gouvernance au début du XIXe siècle. Dans le monde académique, il y a eu une véritable explosion d'intérêt pour la gouvernance. Pendant les années 80, on a publié 350 articles traitant la gouvernance dans les journaux académiques, qui ont été cités 3600 fois. Dans les années 2010, les chiffres s'élevaient à 900 articles et plus de 100 000 citations, 30 fois de plus. Pourquoi ce regain d'intérêt ? Marc Bevier, professeur de sciences politiques à l'Université de Californie, explique le phénomène ainsi. La popularité récente du mot « governance » doit beaucoup à son accord avec les changements dans le monde. Les questions de gouvernance occupent une place importante là où le gouvernement est devenu une question de plus en plus complexe, dépendant de diverses parties prenantes, ayant des liens formels et informels les uns avec les autres. Quant à la gouvernance des entreprises, professeur Bevier note une raison sous-jacente, la séparation de la propriété et du contrôle dans les entreprises où l'actionnariat est très dispersé, ce qui est maintenant le cas dans la plupart des entreprises américaines et anglaises. Dans ces conditions, le problème d'agent principal devient d'actualité. Dans la gouvernance des entreprises, continue Bevier, les actionnaires sont les principaux et les dirigeants sont les agents. Normalement, l'entreprise devrait être gouvernée en accord avec les intérêts des actionnaires. Mais en réalité, les dirigeants ont leurs propres intérêts, surtout leur rémunération, et les actionnaires ne sont pas en mesure de contrôler les dirigeants en temps réel. Alors, ils se tournent vers le conseil d'administration pour s'assurer que leurs intérêts sont pris en compte. Mais puisqu'on parle d'intérêts personnels, il faut que je déclare le mien. Je suis actuellement, comme a dit le président non-exécutif de NatWest Bank et aussi d'une société d'assurance. En même temps, j'enseigne à Sciences Po, où je donne aussi un cours qui traite la régulation financière, y compris les questions de gouvernance. Pendant 11 ans, j'étais administrateur de Morgan Stanley à New York. J'ai donc une connaissance directe du système américain de gouvernance. Au total, j'ai siégé pendant 37 ans à des conseils d'administration des sociétés cotées et 6 de plus dans les sociétés détenues par les intérêts privés. Ça représente une longue période de ce que les chercheurs universitaires appellent l'observation participante. Je dois admettre pourtant que je n'ai jamais siégé au conseil d'administration d'une entreprise pratiquant un modèle de gouvernance de type partenarial, comme en Allemagne ou d'une certaine façon en France. Mais j'ai siégé au conseil de la Tate, du Théâtre National, Académie Royale de Musique à Londres, qui pratique une forme de gouvernance semblable à celle des entreprises, mais avec les artistes, musiciens et écrivains au nombre des administrateurs. Si l'on compare les systèmes de gouvernance des entreprises des États-Unis, du Royaume-Uni et la France, on peut remarquer les différences significatives. En France, par exemple, il est obligatoire pour les grandes entreprises de nommer des salariés au conseil d'administration et la loi Pacte en a augmenté le nombre. D'après le gouvernement français, la loi a pour objectif de permettre aux entreprises de mieux prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux dans leur stratégie. Les entreprises, et je cite le ministère, ne se limitent pas à la recherche du profit. L'entreprise doit être le lieu de création et de partage de sa valeur. Le ministère justifie les changements en citant un sondage d'après lequel seulement 3% des Français croient que les entreprises existent pour enrichir leurs actionnaires. Le chiffre comparable est 26% aux États-Unis et d'après un sondage d'opinion réalisé par la British Academy, vos homologues, je crois, un remarquable 44% de la population au Royaume-Uni soutiennent la proposition que le but d'une société est de maximiser les rendements pour les actionnaires dans les limites de la loi. C'est peut-être pourquoi les efforts de Theresa May de promouvoir une autogestion à l'anglaise n'ont pas été couronnés de succès. Mais malgré ces différences, on peut apercevoir une sorte de convergence entre les modèles de gouvernance anglo-saxonne et continentale. Aux États-Unis, les règles et pratiques de gouvernance d'entreprise ne relèvent pas tant de la législation que d'une forme d'autorégulation. La Business Roundtable, composée des plus grands PDG américains, est le groupe qui exerce le plus d'influence. En 2019, ils ont publié une nouvelle déclaration sur la raison d'être de l'entreprise, soutenue par les ténors de Wall Street, que je cite, qui reflète plus précisément notre engagement vers une économie de marché libre qui sert tous les Américains. L'important est que pour la première fois, la table ronde notait que les administrateurs devaient agir dans l'intérêt des clients, des employés, des fournisseurs et en dernier lieu, les actionnaires. Le gourou américain de la gouvernance, l'avocat new-yorkais Marty Lipton, déclara l'abandon de la primauté des actionnaires et l'adoption de la gouvernance des parties prenantes. En changeant de cap d'une façon soudaine et dramatique, la table ronde a introduit le loup dans la bergerie. Le conseil d'investisseurs institutionnels a réagi agressivement le jour même, déclarant que rendre compte à tous signifie de ne rendre compte à personne. Et a noté qu'il ne propose aucun nouveau mécanisme pour rendre le conseil d'administration responsable envers toute autre partie prenante. Mais l'investisseur le plus important, Larry Fink de BlackRock, s'est prononcé en faveur du point de vue de la table ronde. Le capitalisme des parties prenantes, a-t-il écrit dans sa lettre au PDG en 2022, n'est pas une question politique, il n'est pas woke, il est tout simplement le capitalisme. Les entreprises sont plus performantes lorsqu'elles réfléchissent à leur rôle dans la société. Aux États-Unis, le débat continue. À Londres, les tablettes de pierre de la gouvernance sont plutôt gravées par les régulateurs, surtout le Conseil d'information financière, bien que l'inspiration originale de notre code de gouvernance soit venue de la Banque d'Angleterre en 1992. L'autorité de la banque dans ce domaine n'était pas claire, mais cela ne l'a jamais empêché d'agir quand elle l'estimait nécessaire. Après plusieurs scandales, Banque de Crédit et Commerce International, etc., quand des entreprises importantes et apparemment financièrement solides se sont effondrées du jour au lendemain, la banque a décidé qu'il fallait agir pour sauver la réputation de la City de Londres. Le rapport de Adrian Cadbury est devenu l'inspiration des codes de gouvernance successifs. Le code britannique actuel fait une révérence au capitalisme des parties prenantes, mais les actionnaires retiennent leur primauté. Ils proclament « Une entreprise prospère et dirigée par un conseil d'administration efficace et entreprenant ». Je sais que d'après George Bush, le mot « entrepreneur » n'existe pas en français, mais peut-être le sens est évident. Le conseil d'administration, dont le rôle est de promouvoir le succès durable de l'entreprise en générant de la valeur pour les actionnaires et en contribuant à la société au sens large. De cette analyse très abrégée de l'évolution des obligations des sociétés, il est évident que la vie des présidents et des directeurs directrices est devenue beaucoup plus compliquée. Il n'est plus possible de dire à la fin de l'année que le prix des actions est monté d'X% plus que le CAC 40 et que tout va bien. Il faut démontrer qu'on est conscient de toutes ces obligations au regard du code et en plus, dans une industrie réglementée, qu'on a répondu aux attentes des régulateurs. Il n'est pas surprenant que les rapports annuels des sociétés soient devenus gigantesques. Centaines de pages de statistiques et d'évaluations de l'impact social et environnemental, etc. Les publications en matière de durabilité dans le contexte du changement de climat sont elles-mêmes immenses. Chez NatWest, nous avons retenu un nouvel objectif de l'entreprise, défini comme aider les personnes, les familles et les entreprises à prospérer, qui a contribué à assister nos décisions stratégiques et à structurer nos communications publiques. Face à cet ensemble d'objectifs plus complexes et nuancés, nous devons nous demander quelle est l'utilité actuelle des dispositions spécifiques des codes de gouvernance. Un bon nombre ont été mis en place en réponse à une crise ou à des scandales. Les régulateurs sont souvent obligés de fermer la cage aux oiseaux après qu'ils se sont envolés. Bien sûr, il n'est pas déraisonnable pour les investisseurs et les régulateurs de vouloir mettre en place des mesures indirectes de performance et de conformité aux règles, surtout lorsque la surveillance en temps réel n'est pas possible ou lorsque les résultats souhaités sont difficiles à définir. Mais ces mesures doivent être significativement corrélées avec les résultats souhaités. Et il me semble qu'il y en a qui ne le sont pas et qui même marchent dans l'autre sens. Il ne sera pas possible cet après-midi de mettre en évidence chacune des dispositions de tous les codes en vigueur dans les trois pays, à moins que, comme Lamartine, je demande au temps de suspendre son vol. Je vais donc choisir cinq. D'abord, la séparation du rôle du président et celui du directeur général, en vigueur en Grande-Bretagne et de plus en plus en France, mais beaucoup moins aux États-Unis. L'indépendance et la durée des mandats des administrateurs, la question controversée de l'équilibre entre les sexes et les races, la composition du conseil d'administration et l'expertise et l'expérience de ses membres, et la définition des responsabilités personnelles de certains administrateurs qui est d'actualité à Londres. D'abord, le système moniste dissocié ou gouvernance dual. Au Royaume-Uni, le premier code de gouvernance en 1992 a recommandé la séparation des fonctions. Et 30 ans plus tard, ce modèle est devenu quasiment universel. En France, depuis 2001, le Code de commerce des sociétés anonymes a envisagé deux modèles. Il est possible d'opter pour la forme traditionnelle du PDG ou choisir de dissocier les fonctions de directeur général et de président. Traditionnellement majoritaire, les sociétés avec PDG commencent à perdre du terrain au sein du SPF 120. On est près de 50-50 à l'heure actuelle. Et plusieurs grandes entreprises ont changé de modèle récemment. On pourrait citer L'Oréal, Danone, Bouygues, Valeo et Score. Il est à noter pourtant que souvent il s'agit du PDG se dégageant de la direction quotidienne de l'entreprise et restant président. Ce que les Japonais appellent une montée au ciel. Le code britannique, qui rigoureusement proscrit cette pratique, considère un ancien PDG qui devient président de la même société non indépendant. À Londres, Denis Kessler et Martin Bouygues seraient demandeurs d'emploi. Aux États-Unis, la situation est compliquée. Tout comme en France, il y a une tendance vers le modèle dualiste. Parmi le S&P 500, 43% des sociétés continuent avec le système moniste. Mais même chez les dualistes, il est fréquent de trouver l'ancien CEO en chairman. À Morgan Stanley, pendant ma période sur le conseil, on est passé de monisme à dualisme avec l'ancien PDG en président et puis à monisme encore. Il y a donc une remarquable divergence de pratiques. Et pour une fois, ce sont les Anglais, réputés en France surtout pour leur pragmatisme et leur souplesse, qui sont les plus rigides et dogmatiques. Le monisme est une hérésie quasi cathare à Londres. Les Anglais ont-ils raison? La théorie de la gouvernance est quelque peu ambiguë sur ce point. D'un côté, la théorie de l'agence nous dirige vers la structure dualiste. La séparation des rôles du président et directeur général accroît l'indépendance du conseil et améliore son contrôle et sa surveillance. D'autre part, la théorie de la tutelle met l'accent sur les avantages d'une autorité claire et sans ambiguïté concentrée en une seule personne. L'unité de commandement est, vue de cette perspective, considérée comme essentielle pour établir les lignes d'autorité claires et une responsabilité significative envers les parties prenantes, surtout envers les actionnaires. Si la théorie n'est pas décisive, peut-être devons-nous explorer un territoire hostile à beaucoup dans le monde académique, la pratique. Il y a eu beaucoup d'analyses, mais il n'est pas toujours facile d'interpréter les résultats, en partie parce que les objectifs de l'entreprise ont changé, comme j'ai expliqué. Une étude publiée en 1996 n'a trouvé que de faibles indices sur le fait que le statut de dualité affecterait les performances à long terme. Une deuxième, 2007, conclut qu'elle n'a trouvé aucune évidence d'un rapport significatif et systématique entre la performance financière et la structure et direction du conseil d'administration. Ces deux études étaient fondées sur la performance des sociétés américaines. Une troisième, basée sur 50 interviews avec des présidents et directeurs généraux des entreprises britanniques, notait que les deux peuvent souvent être distraits et voir leur indépendance compromise par des luttes de pouvoir et de territoire, et leur responsabilité lorsque les choses tournent mal, et ne trouvait pas d'évidence qu'un modèle dominait l'autre. Des études plus récentes, qui tiennent compte de la capacité à éviter les risques ainsi que la rentabilité, ont abouti à des conclusions similaires. Et une méta-étude en 2014 de 45 études différentes sur le sujet de 1989 à 2013 n'a fourni aucune preuve claire qu'un système dualiste améliore les performances ou aide à éviter les risques. En outre, un rapport de HSBC en 2019 affirme qu'au cours de la dernière décennie, les entreprises américaines dotées d'un président directeur général ont surperformé les entreprises dualistes. Leur conclusion est que si la séparation des rôles est souvent acceptée comme un fait avéré de bonne gouvernance, les preuves sont beaucoup moins claires. Donc la séparation n'est pas toujours préférable dans toutes les entreprises. Il est évident que sur ce premier sujet, le pragmatisme français est nettement préférable au dogme britannique. Un deuxième domaine où les régulateurs britanniques sont dogmatiques est la question des limites de mandat. Notre code est très clair. Sans une explication spécifique, un administrateur n'est plus considéré comme indépendant après 9 ans de service. En France, un administrateur se transforme en citrouille, tout comme le carrosse de Cendrillon, après 12 ans. Aux États-Unis, en revanche, il n'y a pas de limite prescrite. Quelques entreprises ont choisi leur propre limite, mais c'est rare. Seulement 5% des S&P 500 en ont une. La théorie des limites est simple. Si on reste trop longtemps sur un conseil d'administration, on risque de perdre les perspectives indépendantes attendues. Peut-être on est trop proche du PDG, incapable de voir ses faiblesses. De l'autre côté, il est évident qu'une grande entreprise est compliquée. Il faut un certain temps pour comprendre son fonctionnement et ses dynamiques. C'est surtout le cas des grandes banques. Dans une banque en particulier, les administrateurs qui ont connu une récession sont précieux. Ce n'est qu'en cas de crise que l'on comprend les faiblesses du bilan. Si les administrateurs changent trop souvent, on perd la mémoire et l'expérience. Il y a des chercheurs qui ont tenté une analyse pour comprendre comment équilibrer ces deux facteurs. Pour un président, il est important de se concentrer sur cette question, même si on est totalement aligné avec les codes en vigueur, notamment parce que les agences comme ISS pénalisent les sociétés si plusieurs des administrateurs sont en fonction depuis longtemps. Une étude menée par des chercheurs australiens cette fois, basée sur la performance des entreprises américaines, a conclu que les efforts visant à imposer les limites de mandat peuvent être contre-productifs. ils ont observé un niveau d'engagement plus élevé de la part des administrateurs de longue date en termes de participation au comité, etc. Ils ont également observé qu'avec des administrateurs plus anciens, la rémunération du directeur général était en général inférieure en termes relatifs et que la rotation du directeur général était plus sensible à la performance de l'entreprise. Un rapport de la Brookings a signalé que la tendance à la limitation des mandats au sein des conseils d'administration reposait sur une logique erronée. Dans ce domaine, il me semble que la pratique américaine, qui laisse la décision aux conseils d'administration eux-mêmes, avec une certaine pression actionnariale sur les conseils qui ne se renouvellent pas assez fréquemment, est appropriée. Ce qui est important est d'équilibrer la rotation avec l'expérience. À Morgan Stanley, l'ancienneté moyenne était bien inférieure à 9 ans, mais on retenait 2 ou 3 administrateurs de longue date, pas des 83, mais avec peut-être 15 ans de service. C'est un modèle qui marche bien, à mon avis, mais qui est rigoureusement exclu au Royaume-Uni et n'est guère plus possible en France. Mais il y a un avantage à la rotation obligatoire dans les conditions actuelles. Si l'on veut améliorer la diversité du conseil, par exemple pour augmenter le nombre de femmes ou personnes issues de minorités ethniques, on peut y parvenir plus rapidement si les sièges se libèrent plus souvent, ou je devrais dire les fauteuils ici à l'Académie. Ce qui m'amène à mon troisième point, la mesure dans laquelle la gouvernance entreprise reflète la nature changeante de la société. C'est un cliché de dire que le membre d'un conseil d'administration américain moyen est un homme blanc de 63 ans qui joue au golf et porte son pantalon en berne. Ce n'est maintenant que partiellement vrai. L'âge moyen reste légèrement supérieur à 63 ans, mais 29% sont des femmes et 23% se définissent comme appartenant à une minorité ethnique. Quant au golf, les chiffres ne sont pas disponibles. En France, les statistiques sur l'origine ethnique ne sont pas publiées pour des raisons qu'on connaît bien, mais le pourcentage de femmes est sensiblement plus élevé. La part des femmes au sein des conseils d'administration est passée de 13% en 2010 à 46% en 2021. Surtout grâce à la loi Copé-Zimmermann, la France est championne du monde de la parité dans les organes non exécutif. Le Royaume-Uni traîne à 36%. Mais franchement, augmenter la proportion des femmes non exécutives est relativement facile à faire. Il n'y a pas de CV spécifique pour un administrateur sans fonction précise. Et il n'est pas évident qu'une augmentation du nombre de femmes administrateurs produise une augmentation du nombre de femmes cadres, qui est beaucoup plus important au long terme. Aux États-Unis, si seulement 29% des administrateurs sont des femmes, 26% des membres des comités exécutifs sont des femmes. Tandis qu'en France, le rapport est de 46% non exécutifs à 20% exécutifs. En fait, certains soutiennent qu'une augmentation rapide du nombre de femmes administratrices pourrait entraîner une diminution du nombre de femmes occupantes des postes de direction. Un chasseur de tête à Londres, strictement une chasseuse de tête, m'a dit l'autre jour qu'en incitant les femmes d'abandonner trop tôt la vie de cadre pour rejoindre les conseils d'administration, la loi a eu pour conséquence néfaste de réduire le vivier des femmes se destinant à des postes de cadre supérieur. Cette pénurie relative de femmes dans les comités exécutifs est sans doute une raison pour laquelle la Chambre des députés a voté la loi Rixin l'année dernière. Comme a dit la députée Marie-Pierre Rixin, la loi Copé-Zimmermann a fabriqué l'escalier extérieur. Il faut maintenant fabriquer l'escalier intérieur pour une facture durable du plafond de verre au sein des entreprises. Et la loi vise 40% de femmes exécutives en 2040. Outre-Manche, comme aux États-Unis, la loi ne s'est pas mêlée de l'affaire. Mais récemment, les régulateurs ont commencé à s'y intéresser. Notre équivalent de l'autorité des marchés financiers obligera à l'avenir les sociétés cotées à divulguer leur position par rapport à trois objectifs. 40% de femmes membres du conseil d'administration. L'une d'entre elles doit occuper un poste de direction, soit président, directeur général, président du comité d'audit, et un administrateur d'une minorité ethnique. Comment les régulateurs ont-ils cherché à justifier l'utilisation de leur pouvoir dans ce domaine? Ils citent l'argument selon lequel encourager la diversité dans les conseils d'administration peut être considéré comme ayant un intérêt social et un intérêt public plus large, encourageant l'équité dans la société en garantissant que les postes plus élevés sont ouverts à tous et à toutes. Par principe, je partage entièrement ce sentiment. Les arguments d'équité pour faire avancer les femmes dans le monde du travail sont accablants. Et je note à côté que NatWest est, je crois, la seule banque de taille dans le monde entier où le directeur, directrice générale et le directeur financier sont des femmes. Je les ai nommées toutes les deux. Mais peut-on dire que la nomination des femmes au conseil garantit une meilleure performance financière? Le régulateur lui-même n'en est pas persuadé. Il conclut que, et je cite, « les preuves empiriques ne sont pas concluantes ». La Commission européenne a conclu de la même manière il y a 2 ans. Des études en Norvège et Californie et autres ont établi un rapport négatif entre le nombre de femmes dans le conseil et la rentabilité de l'entreprise. Mais une explication possible est que les femmes sont plus souvent nommées à un moment de crise. Deux chercheurs ont identifié ce qu'ils appellent un phénomène qu'ils appellent le falaise de verre plutôt que le plafond de verre. D'autres études, en Espagne et ailleurs, ont trouvé un effet dans l'autre sens. Dans toutes ces études de recherche, la distinction entre la causalité et la corrélation est difficile à préciser. Cependant, il convient d'ajouter qu'une étude par HSBC utilisant des statistiques plus récentes identifie un lien positif entre la diversité et le rendement total pour les actionnaires, au moins pour les entreprises qui ont au moins 30% de femmes au conseil. Les études les plus citées pour justifier l'intervention des régulateurs considèrent le lien possible entre diversité et bonne gouvernance. Sur ce point, les universitaires sont plus confiants. Ils citent des statistiques qui démontrent qu'en général, les femmes assistent à plus de réunions des conseils et aussi, point intéressant, les hommes sont plus diligents quand les femmes sont présentes. Et il existe également des preuves que la diversité des genres réduit les comportements répréhensibles, du moins dans les banques. Une étude démontre que les banques avec plus de femmes au conseil payent moins de demandes. Elles chiffrent même l'économie qui en résulte à 7,48 millions de dollars par an. Une somme à ne pas négliger. Mais il faut noter que les banques américaines et européennes ont payé collectivement 37 milliards de dollars par an entre 2008 et 2018. Une amende de 9,6 milliards pour BNP, une de 4,9 milliards pour NatWest, entre autres. Mais si les analyses sont un peu mixtes, la diversité est peut-être un des rares domaines où il est possible de bien faire en faisant le bien. Mais il est important de noter que le simple moyen d'augmenter le nombre de femmes non exécutives n'offre aucune garantie que les femmes monteront l'escalier intérieur, dans la phrase de Mme Rixin. Malgré tous les progrès qui ont été faits, il demeure que dans les entreprises cotées à Londres, il y a plus de PDG, de directeurs généraux, je dois dire, il y a plus avec le prénom John, qu'il n'y a de femmes. C'est un cas de l'entre-gens plutôt que l'entre-soi. Et dans le secteur financier, c'est pire. Le régulateur a publié une analyse des prénoms des cadres qu'il a autorisés à conduire les différentes catégories d'activités financières. Ici, on parle de plusieurs milliers de personnes à Londres. Le prénom féminin le plus populaire est Susan, en position 45 sur la liste. On trouve plus de 10 fois de Davids que de Susans. Je n'ai pas trouvé la même analyse en France, mais je soupçonne que là, il y en aurait beaucoup plus de Jean-Claude que de Marie-Claude. Ces deux facteurs, la séparation des rôles de président et de directeur général et la volonté de nommer plus de femmes assez rapidement, tendent à exercer une pression à la hausse sur le nombre de membres du Conseil. Tandis que les investisseurs, soutenus par la recherche académique, plaident souvent en faveur d'un plus petit nombre d'administrateurs. Une étude publiée par GMI Ratings aux États-Unis a prétendu montrer que parmi les entreprises dont les revenus dépassent 10 milliards de dollars, les conseils plus restreints, de 8 administrateurs ou moins, ont produit les rendements nettement meilleurs pour les actionnaires, 8,5% plus élevés en moyenne, un degré de surperformance important qui a attiré l'attention des investisseurs. L'argument est qu'un nombre restreint d'administrateurs prendront des décisions plus rapidement et surtout qu'ils seront plus enclins à révoquer un directeur général sous-performant. Il y a aussi moins de chances qu'un directeur devienne trop dominant. Un petit groupe est peut-être moins formel et encourage un débat plus ouvert. À mon expérience, la plupart des présidents de conseil reconnaissent ces avantages. Et en plus, les déjeuners d'administrateurs et les vins, bien entendu, reviennent moins chers. Alors pourquoi le nombre moyen de directeurs au Royaume-Uni est-il 10, aux États-Unis 11,5 et en France 12,7? Et pour les entreprises dans les secteurs réglementés comme la banque, les moyennes sont plus élevées. Chez BNP Paribas, le conseil compte 15 membres et chez NatWest 14. La raison en est qu'il existe des pressions contradictoires sur le président pour qu'il ou elle nomme une gamme complète d'experts, ce qui est très difficile à concevoir dans un petit cadre. Les présidents des comités d'audit et de risque sont des fonctions de plus en plus spécialisées, tout comme la présidence du comité de rémunération, un créneau difficile à pourvoir, surtout dans une banque. À Londres, il faut aussi nommer un senior independent director qui est responsable de l'évaluation du président et qui agit comme une soupape de sécurité si les investisseurs perdent confiance dans la gouvernance de l'entreprise. Les investisseurs font toujours pression pour avoir une expertise informatique au conseil et désormais aussi pour une bonne compréhension de la cybersécurité. Ils cherchent également la connaissance directe et récente du marché et de gestion. Les régulateurs insistent qu'il y ait quelqu'un qui comprenne le détail de la régulation. Cette année, notre régulateur nous a demandé de nommer un directeur responsable pour les intérêts des consommateurs. Il en est de même pour les employés. Et de plus en plus, les investisseurs insistent sur l'expérience de durabilité et une bonne compréhension de l'impact du changement climatique. Ce rassemblement de gens de tous les talents doit comprendre, bien entendu, 40% de femmes et une personne issue d'une minorité ethnique. Alors, en tant que président, parfois, il semble qu'on essaye de compléter un programme linéaire sans solution. Et si on a de la chance de trouver des chevilles rondes pour des trous ronds, les limites de durée des mandats risquent de les avancer de nouveau. Mon but, pourtant, n'est pas de m'apitoyer sur le sort des présidents de banque. Il s'agit de démontrer qu'une approche de la gouvernance un peu scolaire, basée sur des listes de conformité telles que pratiquées par les agences de conseil en vote, est susceptible de produire un résultat sous-optimal, voire absurde. Sur l'échelle de notation d'une des boîtes de conseil, NatWest pourrait augmenter son classement en matière de développement durable en recrutant à son conseil un dirigeant d'une société pétrolière. Ce qui serait un résultat paradoxal pour une banque qui a réduit ses prêts aux sociétés d'énergie fossile à un niveau de minimis. Le dernier de mes 5 sujets concerne la question difficile de la responsabilité personnelle des administrateurs, surtout dans le secteur financier. Après la grande crise financière, une accusation portée contre les banques était que, bien que leurs actions aient gravement endommagé l'économie et imposé des coûts énormes à la société et aux contribuables, les administrateurs et les présidents n'aient pas payé de prix personnel. RBS, à l'époque, maintenant NatWest, est un bon exemple. Le coût total pour le gouvernement n'est même pas encore connu, mais sera au moins 20 milliards de livres sterling. Et un seul des anciens administrateurs a été puni, dans le sens où il a perdu son autorisation de régulateur, du régulateur. Pourquoi ? Les médias, et surtout les parlementaires, ont du mal à comprendre. Il y a une réponse longue à cette question et une réponse brève. La réponse brève est en effet que les sociétés, et surtout les banques, sont des mécanismes de diffusion de responsabilité très efficaces. Une chercheuse américaine a écrit un rapport basé sur une cinquantaine d'interviews de banquiers à Wall Street qui s'appelle « Pas de corps à frapper, pas d'âme à damner ». Sa conclusion est la suivante. La responsabilité des défaillances complexes ne peut être facilement attribuée ou évaluée. La responsabilité se dilue dans le collectif. C'est vrai, mais c'est une conclusion peu satisfaisante. Chacun est responsable, donc personne n'est responsable. Où en est la gouvernance ? Quand les défaillances se produisent, tout cet édifice magnifique de gouvernance avec ses codes et ses quotas sert, comme on dit, autant qu'une théière en chocolat. Comment y répondre ? Différents pays ont emprunté des itinéraires différents. Pour une fois, je crois que la réponse anglaise présente des atouts évidents. À la suite d'une commission parlementaire, le gouvernement Cameron a voté une loi qui crée un système de Senior Management Responsibilities, de responsabilité des cadres supérieurs, d'après laquelle les administrateurs spécifiques, y compris le président du comité d'audit, etc., ont des descriptions d'emploi très claires. Il en est ainsi pour les hauts cadres également. Les critiques observent que le régime va à l'encontre de la doctrine de responsabilité collective, mais moi, franchement, je le trouve utile pour établir qui est responsable pour quoi dans la banque. Il n'a pas encore été beaucoup utilisé comme base de discipline, bien qu'un PDG de banque ait été condamné à une amende importante pour une infraction. Le régime a cependant merveilleusement focalisé l'esprit des administrateurs et des dirigeants. La Banque d'Angleterre a publié une évaluation du régime à la fin de 2020. Elle a interviewé beaucoup de celles et ceux impliqués. Les réponses étaient plutôt positives. Les conclusions étaient qu'en pratique, les responsabilités individuelles et collectives sont complémentaires et que le nouveau système était un changement positif qui, d'apparence, a joué un rôle dans l'amélioration des standards à travers le secteur financier. D'autres analyses académiques ont confirmé l'impact sur la culture des banques. Mais le régime n'a pas évité la controverse. L'extension récente aux gestionnaires d'investissement et aux fonds spéculatifs a dérangé ceux qui étaient auparavant passés sous le radar de la réglementation de conduite. Et en décembre, le nouveau chancelier de l'échiquier, M. Hunt, ou, si je respecte la loi Toubon, M. Chasse, le Royaume-Uni, comme vous le savez, a récemment adopté la pratique de changer de ministre de Finances au rythme de la quatrième République. Il a annoncé un ensemble de mesures visant à améliorer la compétitivité de la place de Londres après le Brexit. La recherche des bénéfices de Brexit a pris le caractère de la chasse au snark, un animal fabuleux, de Lewis Carroll, si bien traduite en français par Louis Aragon. C'est une allégorie de la poursuite du bonheur humain menée par l'homme à la cloche, dont le refrain « Ce que je vous dis trois fois est vrai, est très appropriée dans ce contexte où les affirmations sans fondement sont la monnaie du débat. Une des mesures annoncées était, à la surprise générale, un examen du régime de responsabilité, moins de 2 ans après le dernier. Les intentions du gouvernement ne sont pas encore évidentes, mais il y en a au sein du Parti conservateur qui voit dans le Brexit une opportunité pour une dérégulation compétitive du secteur financier qui aidera à repatrier les activités qu'on a perdues à d'autres centres européens. Pour ma part, j'espère que dans ce domaine, il n'enclenche pas la marche arrière. Ce serait un désavantage de Brexit plutôt qu'un bénéfice. Mais quelles conclusions peut-on tirer de ce bilan ? D'abord, il y a peu de preuves rigoureuses pour soutenir bon nombre des prescriptions adoptées par ceux qui prétendent contrôler la gouvernance des entreprises cotées, que ce soit gouvernement, régulateur, investisseur ou les agences qui agissent en leur nom. Donc, un peu d'humilité et de mise. Il n'y a certainement aucune preuve qu'un modèle est mieux que les autres en toutes circonstances, et certains signes que les entreprises cotées pourraient être contraintes par les disciplines qui leur sont imposées, notamment par les exigences en matière de gouvernance. Il est frappant que le nombre de sociétés cotées en Grande-Bretagne a diminué de 30% depuis 2006. Et le même phénomène est évident en France et en Allemagne, tandis que le nombre d'entreprises retirées de la cote augmente rapidement. En 2021, alors que presque aucun capital n'a été levé par les entreprises cotées, 15 entreprises ont été retirées du marché pour une valeur totale de 25 milliards de livres. Et la composante non cotée des 500 premières entreprises au Royaume-Uni croît à un rythme 2 à 3 fois supérieur à celui de la partie cotée en termes de revenus et de bénéfices. Aux États-Unis, la tendance est plus avancée encore. Le nombre d'entreprises financées par private equity a doublé dans 10 ans. Globalement, les actifs nets ont multiplié par 7 en 20 ans, soit le double de l'augmentation observée pour les sociétés cotées. Il y a sans doute de nombreux facteurs à l'origine de cette tendance, mais on ne peut plus présumer que le modèle d'entreprise cotée est supérieur aux autres. Et on devrait peut-être se demander si la gouvernance des entreprises cotées, visant à atteindre plusieurs objectifs au-delà de la rentabilité, n'est pas de nature à favoriser la croissance des entreprises privées. Mon deuxième point auquel j'ai fait référence au début, c'est que l'évaluation de la gouvernance, telle que pratiquée par de nombreux investisseurs, est devenue un exercice scolaire de case à cocher. Cela est en partie fonction de l'essor des stratégies d'investissement passives, généralement le suivi d'indices. D'après Bloomberg, les 3 mammouths BlackRock, State Street et Vanguard détiennent désormais près d'un quart du S&P 500 contre 13% il y a un peu plus de 10 ans. Et Bloomberg prévoit que l'investissement passif dépassera la gestion active au cours des 3 prochaines années. Certains de ces fonds passifs sont peu incités à s'engager directement auprès des entreprises et ont tendance à externaliser leurs évaluations de gouvernance. Une étude a révélé que les fonds passifs sous-investissent dans la gestion et s'en remettent excessivement aux dirigeants d'entreprise. Et la gouvernance est souvent désormais considérée comme un élément parmi d'autres, et non le plus important, dans une évaluation ESG. Pour une fois, l'acronyme en français est dans le même ordre que l'anglais. Normalement, c'est l'inverse. NATO, OTAN, FMI, IMF, etc. Mais pour une fois, ESG, c'est le même. L'investissement ESG fait fureur depuis un certain temps. La droite républicaine est très hostile. Gouverneur Ron DeSantis de Floride s'est prononcé d'une façon très claire. Le pouvoir des entreprises a de plus en plus été utilisé pour imposer un programme idéologique au peuple américain par la perversion des priorités d'investissement sous la bannière euphémique de ESG. Il exagère. Mais il est vrai qu'il s'agit d'un cocktail de différents facteurs, certains plus mesurables que d'autres. Les classements ESG sont comme des saucisses. Plus vous en savez sur ce qu'ils contiennent, moins vous êtes susceptible de les consommer. Les difficultés de mesure sont nombreuses, surtout dans le domaine environnemental. Certaines pourraient être résolues par le nouveau Conseil des normes internationales de durabilité dirigé par Emmanuel Faber, qui essaie de mettre de l'ordre dans ce domaine. Mais comme l'a souligné un rapport dans l'hebdomadaire L'Économie, juillet dernier, les mesures ESG se mêlent à des visions diamétralement opposées sur la raison d'être de l'entreprise, ainsi qu'à des débats sur la prépondérance des actionnaires ou des parties prenantes dans la prise de décision. Leur conclusion est que l'ESG a besoin d'une refonte en profondeur, avec une concentration plus étroite sur le changement climatique, qui permettrait de libérer la gouvernance du syndrome de la saucisse. Aux États-Unis, le cabinet de Marty Lipton a conclu il y a 2 semaines seulement que la gouvernance n'a plus vraiment sa place dans l'ESG. S'il est possible de sauver la gouvernance de cette manière, alors comment souhaiterais-je reformuler les normes requises? Je ne peux proposer qu'une esquisse très brève aujourd'hui. Il y a ceux qui soutiennent que le code de gouvernance devrait être aboli tout court. Deux professeurs de droit de Cambridge ont conclu l'année dernière que la surgouvernance a été citée comme l'une des principales raisons pour lesquelles les entreprises préféreraient ne pas être cotées en bourse et que l'abolition du code attaquerait ce problème de front. Sinon, on risque de tuer la poule aux œufs d'or. Je n'irai pas si loin, mais je vois un cas pour quelques changements dans la politique et la pratique. Mes suggestions seraient d'abord d'encourager plus de flexibilité dans les codes de pratique. Le code britannique d'origine a été proposé sur le principe « se conformer ou s'expliquer », mais c'est devenu « se conformer sinon ». Un rapport publié à la fin de l'année dernière qui résumait les opinions d'une trentaine de présidents britanniques a noté une focalisation étroite et parfois contradictoire sur la conformité. En particulier, je crois qu'il faut admettre plus de flexibilité dans la durée des mandats. Reconnaissant qu'une certaine rotation des membres est précieuse, mais quelques chevilles rondes doivent rester dans le trou rond. Il faut accepter aussi qu'il y a des circonstances où le système moniste offre des avantages. Une entreprise ayant besoin d'un examen stratégique complet pourrait trouver un seul dirigeant capable d'agir plus rapidement. Exclure cette possibilité est une erreur. Et il faut noter que toutes les grandes banques d'investissement aux États-Unis, qui ont été nettement plus réussies que les banques d'investissement européennes, ont ce modèle. Et le ciel ne leur est pas tombé dessus. Alors que nous nous approchons de la parité homme-femme au sein du conseil d'administration, il se peut qu'il soit nécessaire d'admettre plus de flexibilité dans ce domaine également. Et nous devons admettre que le véritable défi consiste à renforcer la composition féminine du vivier des cadres. Et il y a lieu de donner plus de poids aux facteurs d'expérience et d'expertise. L'examen le plus approfondi des défaillances de gouvernance dans les banques pendant la crise financière menée par Sir David Walker a fait valoir qu'à l'avenir, une combinaison d'expérience de l'industrie financière et d'indépendance d'esprit seront beaucoup plus pertinentes qu'une combinaison d'expérience moindre et d'indépendance formelle. Et il me semble qu'on a oublié cette vérité. Avec ces principes à l'esprit, les investisseurs et les régulateurs dans les secteurs réglementés peuvent mener un dialogue sensé avec le président sur la manière dont il ou elle a construit son conseil. Mais pour que ce dialogue soit fructueux, les investisseurs, y compris la gestion passive, devront investir dans leur capacité de gestion. HSBC souligne que les grands fonds passifs ont moins de ressources pour l'analyse et l'engagement avec les entreprises. À mesure qu'ils détiennent une proportion de plus en plus importante d'actions cotées, cela devrait changer. Ce qui précède peut paraître un modeste ensemble de propositions. En somme, si c'est une révolution, c'est une révolution plutôt lundi après-midi que samedi soir. C'est une révolution à l'anglaise, pas à la française. Pas de barricades dans la rue, très peu de pavés jetés, mais elle aiderait à renverser une marée qui nous entraîne dans la mauvaise direction, vers une uniformité des pratiques dictée par une idéologie peu étayée par l'analyse et la donnée. Merci.